France Musique.
8h12, notre invité aujourd'hui est le pianiste Olivier Cavé. Voici ce qu'il a choisi de vous faire entendre ce matin. Nina Simone, I wish I knew how it would be feel to be free. I wish I knew how it would feel to be free. Nina Simone, il est 8h16 en France Musique. Bonjour Olivier Cavé.
Bonjour.
Vous teniez à écouter Nina Simone ce matin.
Je l'aime tellement.
Vous êtes arrivé en studio et m'avez dit vous me l'avez programmé parce que j'ai vraiment envie de l'entendre.
Oui, je l'aime tellement.
Qu'est-ce que vous aimez chez elle ?
Enfin, la personne. Sa vie a été un drame. On le sent dans sa musique. C'est une très grande pianiste. C'est une pianiste classique. Nous avons une amie en commun, en fait, qui m'a raconté Nina Simone. Et ça m'émeut chaque fois parce que cette pauvre femme était noire et ça l'a empêchée d'être pianiste. Et ça, rien que ça, moi, ça me bouleverse. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle en parlera avec une très grande tristesse. Elle fera du jazz et elle sera l'une des plus grandes musicienne de jazz de son époque et peut-être de toujours. Et voilà, j'y tenais. Et elle s'est battue politiquement pour les droits civiques. Et ça, c'est très important, même si je ne suis pas sa ligne, parce qu'elle était violente. Elle prenait la violence et la guerre civile. Mais je comprends qu'elle était une des plus grandes pianistes de son temps. Et elle a été refusée à l'Institut Curtis à Philadelphie, tout simplement parce qu'elle était noire. Voilà. Et cette chanson raconte tout simplement ça.
Ce parcours-là. Vous, Olivier Cavé, vous êtes pianiste. Il y a quelques jours sortait votre nouveau disque, 5e album de votre discographie. 3 concertos de Mozart s'y retrouvent. Vous présenterez cet album au public. Ce sera le 18 octobre prochain à la Salle Gaveau à Paris. On va évidemment découvrir ensemble ce nouvel album. Mais Olivier Cavé, vous faites assez rare en France. Ce concert à la Salle Gaveau à Paris sera d'ailleurs vos premiers pas à Paris.
Oui. Et bon, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore beaucoup joué en France. C'est un grand plaisir. En fait, j'ai toujours rêvé de faire mes débuts à Paris avec Rinaldo. Et par
Rinaldo
hasard,
Alessandrini.
Alessandrini, pardon. Et par hasard, ça se fait avec lui. Alors, je suis absolument ravi. Dans une salle, en plus, que j'aime beaucoup. Donc, je me réjouis beaucoup. On va bien s'amuser.
Alors, vous n'êtes pas français, Olivier Cavé, vous
Non.
êtes suisse, vous êtes né en Suisse en 1900.
Et italien.
Et italien, évidemment, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Vous êtes né en 1977, vous faites vos études au conservatoire de Sion, dans le canton du Valais, en Suisse. Et puis à Lausanne, où vous obtenez votre diplôme de piano. Vous aimez la vie plus que tout et la musique vous donne l'occasion de la rendre plus trépidante encore.
Oula, vous avez trop
Je
ça
vous
à
cite. C'est vrai?
Absolument. J'aime tout d'abord la vie et la musique m'aide à la rendre encore plus belle.
La musique classique?
Toutes les musiques. Nina Simone autant que Monteverdi. Absolument. Ça se complète.
Vous jouez de la musique classique? Est-ce que parfois vous jouez d'autres choses?
Non, je suis pas
chez
capable.
Vous, à la maison?
Non. J'écoute beaucoup, mais je suis quand même un pianiste classique.
Vous avez été à bonne école, hein. Vous avez été l'élève de Nelson Gurner, qu'on recevait ici à France Musique il y a quelques semaines. Vous avez également été l'élève de Maria Thipeau, on va en parler dans un instant, et vous avez également bénéficié de précieux conseils aux côtés d'Aldo Ciccolini.
Oui, deux grands pianistes napolitains, les deux grands pianistes napolitains, et j'ai eu la chance de travailler avec eux. Je suis à moitié napolitain. Donc ça a été un grand plaisir. Bon, Maria Thipeau, c'est ma maman. C'est la maman du pianiste. C'est 15 ans de ma vie. C'est une relation très intéressante, très intense. Et elle m'a donné l'amour de tous ces compositeurs que j'enregistre maintenant. Thank you.
Scarlatti, la sonate en mi majeur, Kirkpatrick Vaughan, interprétée par Maria Tipo. Olivier Cavé, Scarlatti est un compositeur qui tient une place à part dans votre vie de musicien. Tout d'abord, parce que vous nous l'avez dit d'entrée de jeu, ça avait l'air très important, vous êtes à moitié d'origine napolitaine.
Ah, absolument. Le pianiste est napolitain, clairement. Et Scarlatti, c'est un peu ce qui m'a fait aimer la musique. C'est à l'âge de 5 ans, mon père m'offre ce disque de Maria Tipo. Et à 5 ans, j'écoutais ce disque en boucle. Et mes parents n'en pouvaient plus. Et encore aujourd'hui, je l'écoute beaucoup. Et à 5 ans, j'ai décidé que j'allais travailler avec cette dame. Et puis,
Et vous avez dû attendre quand même un petit peu quelques années. À 16 ans, vous la rencontrez?
Oui, à Florence. Et c'était un peu tôt. Mais le feeling a été très bon. Mm-hmm. Comme je m'y attendais. Et elle m'a fait travailler une année avec Nelson Gurner et ensuite j'ai commencé les cours à Florence avec elle. Et elle m'a finalement donné vraiment la possibilité de jouer Scarlatti.
Elle vous a dit, Olivier, tu es napolitain, écoute ce que tu as en toi et joue.
Absolument, c'est très simple Scarlatti. Il faut juste être libre, avoir plein de fantaisie. C'est peut-être moi je dis toujours, c'est le compositeur au fond qui représente le mieux les lumières, c'est la liberté totale. Et quand je regarde les manuscrits à Venise, c'est génial.
Parce que vous y avez eu accès.
Oui, j'y ai eu accès, c'était fantastique, on a beaucoup insisté, parce que je ne voulais pas le fac-similé, je voulais les originaux. Et on a découvert en fait que tout est très bien écrit, il y a des petits cribouillis partout. Et en fait, c'était de la main de Scarlatti, il mettait les ornementations. Et elles sont géniales. Et ce que je regrette beaucoup, c'est que ces ornementations, tout petit, ne sont pas dans les éditions actuelles.
Plus récentes. Voilà. Alors, Scarlatti, premier virtuose du clavier?
Absolument. C'est le premier vrai compositeur qui se dédie totalement à un instrument. Et son élève est une claveciniste peut-être encore meilleure que lui, qui est la reine d'Espagne. Et donc, ce duo va nous donner ses 560 sonates. Absolument génial.
560 sonates, donc vous avez inscrit plus de 100 à votre répertoire, Olivier Cavé. En 2008, votre premier album est d'ailleurs dédié à ces sonates de Scarlatti. En 2015, vous y revenez à nouveau, mais en les associant aux sonates de Haydn.
Oui, parce qu'en fait, j'ai, comme tout bon élève de piano, j'ai joué Haydn et ça m'a beaucoup ennuyé. Comme beaucoup, hélas. Et en fait, mais je sentais qu'il y avait une sorte de... Oui, il y avait quelque chose en commun dans l'écriture, entre les lignes. J'ai toujours senti, par hasard, un jour, je suis tombé sur un article d'un musicologue américain qui expliquait ça. Et j'ai dit, ah tiens, je ne suis pas tellement idiot. Donc, j'ai voulu faire un projet discographique. J'ai eu la chance de travailler avec Helen Sizman, qui est peut-être la plus grande spécialiste de Haydn.
Mais c'est amusant, vous travaillez, c'est pas la première fois que vous travaillez
En
duo avec un musicologue.
Oui, je trouve ça génial.
À quel niveau?
Le savoir. Moi, je suis simplement un interprète. Par contre, quand on a un savoir en face de vous qui vous raconte la science de ce qu'on est en train de faire, c'est très enrichissant. En plus, Hélène est une pianiste, donc on a travaillé pianistiquement ensemble, au pianoforte, au clavecin et au piano. Et c'est un magnifique projet, une année superbe, j'ai beaucoup aimé. Thank you.
Le final de la sonate en ré majeur au Bokken 16 numéro 37 de Joseph Haydn, interprété à 8h29 par vous, Olivier Cavé, qui est notre invité aujourd'hui. Une œuvre que vous adorez jouer en concert.
Oui, elle est tellement drôle. C'est plein d'humour, c'est une écriture unique. Il nous raconte une histoire drôle. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est deux mouvements complètement fous, d'une virtuosité. Le premier mouvement est pure virtuosité, scarlatienne. C'est vraiment un hommage à Scarlatti. Et le deuxième mouvement est une ligne et demie, peut-être la plus belle musique pour piano de Haydn. Toute simple, l'opposé, le clair-obscur. D'ailleurs, j'ai appelé mon disque ainsi.
Absolument.
Et après, le final, on a cette sorte d'histoire drôle, avec ces sortes de fanfares un peu... très humoristique et très sarcastique.
Mais nous allons inviter nos auditeurs à écouter cette sonate dans son entièreté. Alors, il y a évidemment d'autres compositeurs à votre répertoire, Beethoven, Schumann, Chopin. Votre deuxième album était, lui, consacré à Muzio Clementi.
Oui.
C'est une fois encore Maria Tipo qui vous a fait découvrir...
Absolument. Indirectement, on n'a jamais travaillé avec Clementi ensemble, mais c'est elle qui, au fond, elle a enregistré l'intégrale.
Mm-hmm.
Quand même, ce n'est pas rien. Surtout pour un tel compositeur. Et c'était tellement une telle évidence pour moi, après Scarlatti, de jouer Clementi. Clementi était le musicien qui connaissait le mieux Scarlatti. Scarlatti a inventé la virtuosité instrumentale au clavier. Et Clementi a inventé la virtuosité pianistique.
Alors, Chopin, Clementi, Beethoven, Schumann, Scarlatti, évidemment. Il y a eu également un troisième disque, dédié à Jean-Sébastien Bach. Est-ce que vous auriez envie, une fois, de vous risquer dans un autre répertoire, la musique contemporaine, par exemple?
Alors oui, pas la musique romantique.
Ah, pourquoi? Ça a l'air certain.
Parce que je pense qu'il y a... d'immenses pianistes qui vont faire ça beaucoup, beaucoup mieux que moi. Je préfère, au niveau de la discographie, je préfère faire la musique que j'aime le plus, celle qui me parle le plus et celle qui m'intéresse le plus. Voilà.
Il y a quelques années, vous avez découvert un grand chef, un chef italien, Rinaldo, oui. Alessandri. Je vous propose de l'entendre ici, dans ce Monteverdi avec son Concerto Italiano.
Thank you.
Rinaldo Alessandrini, le concerto italiano pour ce madrigal signé Claudio Monteverdi, un musicien, un chef que vous avez donc découvert, Olivier Cavé, en 2009, quelqu'un qui vous a donné un choc. C'était oui. Dans Mozart, je pense. Oui.
Bon, je le connaissais déjà bien avant.
Personnellement.
Mais quand j'ai entendu ce Mozart, tout de suite, j'ai dit, ça m'a fait tilt. J'ai dit, non, je veux une fois jouer Mozart avec cet homme.
Donc finalement, voilà. C'était il y a quelques années quand même.
Oui, quand même, oui. Mais entre-temps, je me souviens un jour, je suis allé à Lausanne. Il était là avec son concerto italiano et j'ai attendu à la fin du concert pour qu'il vienne. Il est sorti en dernier et on a discuté. Et on est devenus amis, tout d'abord, sans jouer ensemble. Il m'a fait un cadeau absolument incroyable. Il m'a donné la possibilité de venir écouter ses répétitions. Et là, j'ai tellement appris. Au niveau d'amitié, au niveau musical, au niveau du style baroque.
Et oui, vous le définissez d'ailleurs comme un baroqueux hors norme.
Bon, parce que je suis un pianiste, donc imaginez, c'est très paradoxal, un baroqueux au piano. Et voilà, et on est devenus très amis. Un jour, on était en train de manger ensemble, et c'était juste après avoir entendu Mozart, je dis, mais je voudrais bien faire de la musique avec toi. Il me fait, mais moi aussi. Et voilà. Et on a fait un premier concert à San Francisco.
Avec l'Orchestre Symphonique de San Francisco, oui. C'était en 2012.
Exactement.
Vous décidez alors, à ce moment-là, d'enregistrer les concertos, dont on va écouter quelques extraits, évidemment, dans un instant, concerto de Mozart. C'est un album assez particulier aussi, dans le fait où vous avez créé un orchestre spécialement oui. pour l'occasion, avec Rinaldo Alessandrini, oui. Un orchestre baptisé « Divertissement ». Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette envie-là ?
Alors, bon, tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé l'orchestre idéal qu'on voulait. Et ensuite, Rinaldo a dit,
qu'est-ce que ce serait l'orchestre idéal ?
L'orchestre avec qui on s'entend bien, tout simplement.
Vous êtes difficile.
Non, parce qu'un enregistrement, ce n'est pas un concert. Mm-hmm. Il faut qu'on s'entende bien, on est une semaine ensemble. Mm-hmm. Notre but, c'était de faire de la musique à 33 personnes. Pas le chef, le pianiste et un orchestre qui joue. Et donc, c'était difficile. Et on s'est dit, j'ai toujours adoré le concerto italiano, et il m'a dit, mais au fond, ces musiciens ont appris leur métier sur un violon, sur un instrument moderne. Pourquoi pas y revenir ? Mais avec le style, leur style baroque. Et j'ai eu des sueurs froides, parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner, mais on est très contents
du résultat. Oui, effectivement, ici, les musiciens de cet ensemble divertissement jouent sur instruments modernes.
Voilà.
Vous avez tenté, Olivier Cavé, de créer un orchestre, et là je vous cite encore, au plus proche de ce que pouvait être celui de Mozart lorsqu'il interprétait ses œuvres, mais sur instruments modernes.
Voilà.
C'est assez particulier.
De nouveau, je suis hors norme, comme vous dites.
Thank you. Magnifique allegro de ce cinquième concerto en ré majeur, que je le sens, 75 de Mozart, interprété par Rinaldo Alessandrini, l'orchestre divertissement. Et vous, en soliste, Olivier Cavé, un extrait de votre tout nouvel album, cinquième concerto. Vous me disiez, ça c'est l'œuvre la plus virtuose que Mozart ait écrite.
Oui, la plus étrange aussi, venant de lui. C'est très très virtuose, c'est scarlatien dans le style.
On y revient.
Oui, oui. Il a inventé la virtuosité, donc voilà, on y revient souvent. Et d'ailleurs, c'est son concerto préféré, mais
à
il
Mozart
a changé le final.
Quel moment?
Quelques années après, en fait. Il l'a joué toute sa vie, et il a changé le final, il en a fait ce rondo avec variation qu'on connaît bien, et je comprends pas. Peut-être parce que c'était trop moderne pour l'époque et ça ne plaisait pas. Et il a composé cette série de variations très rococo et très à la mode au fond. Et c'était un peu trop pour l'époque.
Alors ce disque, Olivier Cavé, présente un parcours en trois concertos de la jeunesse à la maturité de Mozart.
Oui, trois concertos. C'est le cœur qui a parlé. On a choisi avec Rinaldo, je me souviens très bien. On écoutait, on a discuté. Et je voulais absolument jouer ce cinquième avec lui, parce qu'on est encore dans la musique baroque, à mon avis. Le 415 est un concerto que j'aime personnellement beaucoup, et j'ai réussi à convaincre Rinaldo. Et le 503, c'est notre concerto. On l'a joué à 5 ou 6 reprises sur scène ensemble, et c'était un aboutissement justement de l'enregistrer. Il est beaucoup évolué avec le temps entre nous. Et on voulait l'enregistrer.
Et finalement, en fait, le fait que ce concerto balaye un petit peu l'entièreté de la carrière de Mozart, c'est finalement été du hasard. Pour ce nouvel album, vous avez rejoint un nouveau label,
oui.
Alpha. Et je crois que j'ai lu que c'était le label qui vous avait fait rêver durant toutes vos études.
Ah, vous savez vraiment tout, hein.
Comment s'est passée cette collaboration?
Alors c'est le groupe Out There, j'étais chez E.ON et pour ce projet, ce grand projet avec orchestre, nous avons décidé que j'allais passer chez Alpha pour la suite de ma discographie. Avec beaucoup de plaisir, parce que symboliquement, ce label, moi j'écoutais ce label quand j'étais étudiant, quand tous les autres écoutaient les grands chefs, voilà. Moi j'écoutais Alpha. Donc c'était un peu hors norme, un peu fou pour un étudiant de 10-15 ans. Et voilà, et le fait de venir chez Alpha, pour moi c'est symboliquement très, très, ouais, très, très beau.
Ça vous donne des idées pour la suite ?
Oui. Beaucoup d'idées.
Comme lesquelles ?
Alors, le prochain projet, c'est... Je continue sur Haydn, parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Et je vais le coupler avec Beethoven.
Et on a un auditeur qui nous pose une petite question, qui aimerait savoir si un jour vous allez vous attaquer à Handel.
Ah !
Vaste question.
Merci pour cette belle question. Oui, mais je le joue déjà beaucoup. Maintenant, la discographie, c'est autre chose, mais Handel, les suites sont absolument merveilleuses.
On va écouter un deuxième extrait, Olivier Cavé, de ce très bel, de très beau nouvel album, un extrait du 25e concerto de Mozart, l'Andante. L'Andante du 25e concerto pour piano de Mozart, interprété par vous-même, Olivier Cavé, sur votre nouvel album enregistré aux côtés de Rinaldo Alessandrini et de l'orchestre Divertissement. On le disait tout à l'heure, orchestre constitué pour l'occasion, spécialement pour cet enregistrement. Une dernière petite question, Olivier Cavé, que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure. D'où viennent ces musiciens de cet orchestre?
La plupart viennent d'Italie. Ce sont des collaborateurs de Rinaldo Alessandrini. Et Rinaldo les a sélectionnés un par un. Parmi eux, il y a de grands solistes baroques et des musiciens magnifiques. Et c'était de la musique de chambre. Vous savez, quand on enregistre, on va écouter ce qu'on a fait. Et d'habitude, c'est le chef et le pianiste. Et là, on était 35 dans la petite salle. Pour tout le monde écoutait. Donc c'était très intense et très intéressant.
Eh bien, nous, on viendra vous écouter, Olivier Cavé, le 18 octobre. Ce sera à la salle Gaveau à Paris. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin et à très bientôt. Et c'est l'heure de vous retrouver, Hervé Niquet, pour votre chronique du jeudi. Bonjour.
Bonjour, madame Saskia. Si je vous dis Klein Heinz, à quoi pensez-vous, madame Saskia?
À une marque de glace et de sorbet?
Pas du tout.
De la robinetterie allemande?
Non.
Une soupe en boîte avec des boulettes?
Oh non.
Un fabricant autrichien de dérailleurs à 6 vitesses?
Mais non.
Un paquet de préservatifs hongrois goût saucisse moutarde?
Mais non, madame Saskia, vous n'y êtes pas du tout. Klein Heinz est en réalité le véritable auteur de la messe pour le couronnement de Napoléon Ier de Joseph Méhul. C'est l'événement de l'année. La découverte d'un vrai faux en direct. Au diable les Bayreuth et autres Salzbourg de banlieue. C'est ce soir à la cathédrale de Laon, par l'énergique François-Xavier Roth et son orchestre, que nous allons découvrir un vrai Rubens caché sous un four en branle. Faisons bref. Le Palazzetto Brusané a programmé depuis un an et demi la messe de Méhul, découverte à Bratislava depuis le début du 19e siècle. Depuis 18 mois, le monde des chercheurs sait que cette œuvre, certes étrangement unique dans la production de Méhul, sera jouée ce soir. Et c'est seulement il y a 3 semaines qu'une musicologue dont je tairai le nom vient prévenir le centre. Moi, ça fait longtemps que je sais que c'est pas du Méhul qui a composé cette messe. Voici des preuves. Il y a 30 ans, Jean Duron, musicologue et chercheur au CNRS, me disait de ne pas vénérer ni de craindre les musicologues, mais de s'en servir. Alors, moi, comme Obélix, je crois surtout qu'il faut leur foutre des baffes. Pourquoi cette musicologue godiche de première et certainement jalouse de sa découverte n'a pas prévenu le Palazzetto Brusané il y a un an et demi? Ce qu'il faut savoir, c'est que Klein Heinz, qui avait composé cette messe pour le couronnement du prince Esterhazy, ne l'a jamais jouée et l'arrangea soigneusement. Un fiefé coquin de curé, l'abbé Nera, la trouva en 1879 et en fit un arrangement pour chœur et orgue afin de toucher les droits d'auteur et l'attribua à Méhul. Puis l'abbé Prime, mort dans les années 1980, se fit lui aussi des couilles en or en éditant la dite messe du couronnement, soi-disant arrangée et orchestrée par ses soins pour lui aussi toucher des droits d'auteur, alors qu'il n'avait pas touché une note à l'original de Klein Heinz. Et hop, dans le cul la balayette! Sauf que là, pour le coup, la balayette est rudement jolie, avec un manche en ivoire sculpté et des poils en soie tressés. Et comme dirait Stevie Boulet, moi de la balayette comme ça, j'en veux bien de caisse. Après avoir préparé le cœur de la radio flamande pour la production de ce soir, outre que ce Méhul me semblait bien autrichien dans sa manière d'écrire, je puis vous dire que l'œuvre est virtuose, difficile, brillante, solide, munie d'un kyrie douloureux, d'un sanctus étonnant, d'un benedictus complexe et d'une fugue finale des plus stupéfiantes. Klein Heinz est un auteur remarquable et l'œuvre est digne d'un prince. Vraiment, sous le four en branle, on a un vrai Rubens. Du coup, ce soir, grâce au parfum de scandale, il y aura tout le monde allant. Ariel Dombal, à peine sorti de sa séance de Botox, qui veut chanter les solos. Eve Ruggieri, qui assure avoir découvert l'œuvre dans la boîte de Gorgonzola de Pavarotti. Mireille Mathieu, revenue exprès du Japon pour saluer. Macha Meryl et Michel Legrand, clamant que la messe est de sa main pour toucher les droits d'auteur lui aussi. Carla Bruni, qui nous écrit pour nous dire que « Mon mari » est le descendant de Klein Heinz. Ce n'est plus un concert, ce sont les funérailles de Jean-Claude Brialy. Mais blague à part, l'œuvre est formidable. La découverte de l'imposture est digne de Paris Match ou du magazine Détective, mais surtout, c'est une leçon d'humilité à notre prétention de tout savoir. Merci au Palazzetto et à François-Xavier Roth de la découverte et suivez la tournée après l'an à Bonn, Grenoble, Nîmes et Versailles. Avouons quand même que voir deux curés s'associer pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes et nous faire croire à une résurrection, on devrait avoir l'habitude de la supercherie, non, Madame Saskia ?
Mais tout à fait, Hervé Niquet. Merci beaucoup pour cette chronique. On vous retrouve sur francemusique.fr et la semaine prochaine, évidemment.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.